quand il était en psychose, c'était une toute autre personne.
Un autre aspect de l'enquête, là, en conclusion, Amélie Pineda, c'est que il y a des certaines régions qui sont très mal desservies, oui. Tu l'as évoqué tantôt, et la mère de Isaac Brouillard-Lessard, elle a dit, quand il a été traité à Pinel, il était bien traité. Oui. En dehors, en Mauricie, il a été mal traité.
Oui. Pour elle, il y avait vraiment une différence dans la façon de suivre son fils, puis elle pense vraiment que ces services-là à géométrie variable ont joué dans le fait que Isaac a été laissé à lui-même et qu'à un moment donné, malgré tous les drapeaux rouges, elle a dit le drame devenait inévitable, mais jamais elle aurait pensé que tout ça allait mener un jour à ce que son fils soit associé à une enquête publique qui a coûté la vie à une policière de la SQ.
Très beau travail d'enquête, c'est à lire dans Le Devoir sous la plume d'Amélie Pineda et Stéphanie Vallès. Ça se poursuit demain. Merci d'être venu nous voir, Amélie.
Merci.
C'était Amélie Pineda du Devoir.
Le Québec maintenant.
Le 16h16 minutes. On parle beaucoup ces jours-ci des déficits des sociétés de transport en commun. Et il y a une idée qui a fait sursauter beaucoup de gens en début de semaine qui a flotté. C'est les villes ont un certain pouvoir de taxation, de l'immatriculation. Et là, ben, il y a des villes qui songent à vraiment peser sur le piton très, très fort. Ça pourrait frôler les 300 $ de taxes sur l'immatriculation pour financer les STM et compagnie. Et Catherine Morancy est en studio. Bonjour, Catherine.
Bonjour.
On parlait de transports en commun. Tu parles d'avoir le courage de sauver les transports en commun.
Oui. Je trouve qu'on a un drôle de langage quand on parle de transports en commun. Là, on parle de sauver, mais alors qu'on devrait investir collectivement. On est revenu souvent là-dessus. Je pense qu'il faut ramener tout ce qu'on a mis comme argent dans notre réseau routier. C'est drôle, on n'a pas du tout la même relation avec les trous dans la chaussée. Là. On se demande pas qui va sauver notre réseau routier. On le fait parce qu'on a l'impression que c'est obligatoire. Mmh. Historiquement.
Parce que c'est flagrant.
C'est flagrant aussi dans le transport en commun. On a demandé à des gens qui attendent une demi-heure pour le bus. Mais tu sais, on a beaucoup investi dans le réseau routier. Si on était une entreprise qui investissait dans un réseau de transport en commun et qui voulait assurer son succès, on arrêterait de financer le concurrent. Ça, c'est la première chose qu'on ferait. N'importe qui chez Ford, hein, je pense pas qu'on finance les employés pour acheter
financer le concurrent, c'est quoi?
Ben, c'est financer le système automobile. On a financé historiquement au Québec, on a beaucoup investi, hein, c'est quoi? 3 milliards par année, 2,3 milliards dans le réseau routier seulement supérieur. En plus, les villes investissent dans le réseau local.
Je suis pas sûr de te suivre, OK?
Oui,
explique ce que tu veux dire par financer le concurrent. Il y a un nid de poule au milieu de la rue Sherbrooke,
ouais.
T'es pas en train de suggérer qu'on va pas le boucher.
Non, ça, c'est la conséquence des choix qu'on a fait en termes de mobilité, ce nid de poule-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'aborde pas la question du déficit de nos réseaux routiers de la même façon qu'on aborde ce qu'on appelle le déficit de nos réseaux de transport en commun. Où est l'exercice actuel d'optimisation de tout ce qui est gestion de nos réseaux routiers? C'est drôle, hein?
Le mot qu'on utilise pour sociétés de transport.
Hein, on dit aux sociétés de transport en commun, y a-t-il moyen d'optimiser vos dépenses? De l'autre côté, on investit 2,3 milliards dans le réseau supérieur, à peu près l'équivalent dans le réseau local.
Attends une seconde. Il y a eu une commission qui s'appelait la commission Charbonneau où on a eu... Non, mais attends.
Oui.
On a étudié comment on se faisait rouler dans la farine, à quel point ça nous coûtait trop cher. Donc, il y a eu un effort d'optimisation. Je comprends que c'est pas ce que tu entends.
Non.
Mais quand on regarde ce qui se passe dans les sociétés de transport, quand on regarde toutes les épaisseurs de structures qu'il y a pour gérer le transport, EXO, ARTM, etc., il y a quand même lieu de se poser des questions sur l'optimisation.
Je pense qu'on doit se poser des questions sur l'optimisation de nos transports. Puis ça, on fait encore l'erreur de mettre d'un côté le transport en commun et le transport routier, alors que l'objectif, c'est d'avoir des systèmes de transport qui sont les plus optimaux possibles. Et ça, c'est pas avec chacun dans sa voiture tout seul. Puis il y a d'autres chose qui est inquiétant, c'est qu'on dit « Ah, ben tu sais, le transport commun, ça s'en va aux municipalités, arrangez-vous avec ça. » C'est pas comme ça que ça fonctionne, le transport. Moi, quand je passe de Laval à Montréal, c'est drôle, il y a pas quelqu'un qui me dit « Hey, toi, t'es pas résident, t'as pas payé tes taxes foncières, t'as pas le droit d'utiliser mon réseau local parce que tu le finances pas. » Même chose à toutes les échelles. Le transport est minimalement québécois. On l'aborde pas de cette question-là. Il y a des décisions qui sont prises à l'échelle québécoise ou même à des échelles métropolitaines qui ont des impacts localement. Ça, je peux donner l'exemple du troisième lien. Heureusement, il ne se fera pas. Si on injecte davantage de voitures grâce à ce troisième lien et ces voitures-là atterrissent dans le Vieux-Québec, qui va subir les conséquences négatives de cet afflux négatif? Mmh. Oui. Tu sais, la charge supplémentaire sur les réseaux, les accidents, la pollution. C'est pas un enjeu qui est juste local. C'est pas à l'échelle de la municipalité que ça se gère, la mobilité. Parce que si j'ai besoin d'avoir un char pour me déplacer à mon chalet, etc., il y a tout un système. Il y a beaucoup d'interactions.
Pour toi,
c'est mal fait.
Pour toi, les mots, là, les déficits des sociétés de transport, STM, STL, etc., là, c'est absolument pas lié à des problèmes de gestion interne. Le problème, c'est l'argent qu'on leur donne.
Un problème de déficit, c'est les dépenses versus les revenus. Mmh. Tu fais les deux. Tu peux pas juste couper dans les dépenses, à un moment donné, il n'y aura plus de service. Oui. Parce que quand on regarde les solutions, là, on réduit le service, ou bien on augmente les tarifs pour les usagers, ou bien on augmente la taxation, ou bien on fait d'autres choses. Puis dans les autres choses, c'est comment on fait pour optimiser notre système de transport à l'échelle du Québec? La question est mal posée. On investit dans notre réseau routier. Hein, si on parle encore d'élargir les autoroutes, là, qu'arrive-t-il si je mets une voie de plus? J'amène plus d'autos. Qui va financer les autos supplémentaires sur le réseau local? Ça tombe encore dans le champ des municipalités. Alors que c'est une route nationale. Fait que le gouvernement du Québec peut prendre des décisions qui vont avoir des impacts au niveau des coûts de transport à l'échelle des municipalités. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans la problématique transport.
Pour sauver, comme tu dis, nos sociétés de transport en commun, on parle de combien d'argent?
Mais là, ça, c'est pas à moi à quantifier les argents requis. Parce
non, mais... Collectivement, est-ce qu'on a besoin d'un milliard par année, 100 millions? C'est quoi le montant magique?
L'exercice qu'il faudrait faire, là, c'est qu'il faut regarder c'est quoi les cibles qu'on veut atteindre en termes de nombre de gens. T'sais, si on se mettait la cible de on veut 50 % de moins d'auto, ça veut dire qu'il faut que les gens puissent se déplacer autrement. Là, il faudrait faire un calcul. J'ai pas la réponse aujourd'hui. Je pense que l'exercice est essentiel. On peut pas juste exiger qu'on veut le même niveau de service. Il faut que le service soit nettement meilleur pour arriver à convaincre les gens. Puis convaincre les gens, faire en sorte qu'ils le prennent puis que ce soit compétitif. Et ça, on sait ce qu'il faut faire. Il y a de la compétence, on a la science pour le faire. Mmh. Mais c'est vraiment au niveau de la structure de financement. Puis là, on travaille sur un mémoire dans mon équipe parce qu'il y a encore une consultation sur le financement. Et il y a beaucoup de constats à faire, tant sur la transparence, justement, du financement, où va l'argent qui est pris, est-ce que ça finance le transport en commun ou le réseau routier, et combien, tu sais, il y a plein de ramifications, en fait, pour pas qu'on comprenne. Et c'est quoi l'ensemble des impacts positifs? Puis il y a des beaux rapports qui existent sur l'ensemble des bénéfices associés au transport en commun. Tout le monde en bénéficie.
Chaque fois qu'on parle d'investir dans le transport en commun, d'abord, ma messagerie se déchaîne. Oui. Ça va de « je l'aime, elle » à « méchante woke ». Prenez toute la gang d'écolo puis allez sur la lune. Parfait. Parfait. On sait maintenant que la couleur de la margarine, c'est aussi polarisant que le transport en commun. Mais regarde, au-delà de ce qu'on peut penser, moi, je me dis toujours, si on n'avait pas le métro à Montréal, là, moi-même chiale contre le trafic, ce serait infernal.
Mais c'est sûr, puis c'est ça. Faut aussi imaginer, là, si les gens qui n'ont pas de voiture aujourd'hui ou qui en ont une et qui ne la prennent pas décident de la prendre, c'est pas les gens de Montréal qui vont subir les principales conséquences. Ce sont les gens qui sont à l'extérieur, qui essaient de rentrer à Montréal. La capacité va être utilisée. Les espaces de stationnement vont être utilisés. Puis il faut lire nos cibles. Là, je voudrais dire à ces gens qui nous écoutent, ce n'est pas moi qui établis les cibles. On a une politique de mobilité durable qui veut réduire la part de l'auto solo, on veut économiser de l'énergie, on veut économiser des gaz à effet de serre. Mais l'équation est relativement facile. C'est pas chacun dans sa voiture qui va nous permettre d'atteindre ça.
OK. En terminant, je veux que tu répondes à ça. Non, je sais.
Oui.
Quelqu'un m'écrit, laissez-moi tranquille avec votre transport en commun qui nous coûte trop cher. Wow. Qu'est-ce qu'on répond à ça?
On dit qu'un ménage en moyenne va dépenser 900 $ pour se déplacer quand il est en transport en commun et à peu près 10 000 $ pour le transport privé. Il coûte pas cher. Le calcul qu'on fait, il est mal fait parce qu'on sait pas ce que ça nous coûte notre réseau routier. Puis quand on fait la comparaison entre le transport en commun puis le réseau routier, on n'inclut pas les coûts d'opération. Tu sais, le 35 millions, là, milliards que les gens mettent annuellement au Québec pour se déplacer en transport privé, faut le comparer sur le 35 milliards plus le 2,3 milliards par année sur le réseau national, plus le 2,3 milliards à peu près sur le réseau local. Ça versus tout mettre ça pour faire un bon réseau de transport en commun, on va tous être plus riches.
Merci beaucoup, Catherine Morancy. Merci. Ça continue à se déchaîner dans ma messagerie au 98985. Beaucoup de beaux commentaires. Je l'aime, Catherine Morancy. Et sinon, il y a aussi, c'est drôle, mais si le transport en commun était privé, ça serait rentable, bizarre, non. Non, mais ça, on en parlera une autre fois. D'accord?
Oui,
merci.
On tarifferait le contrat.
Au retour, on parle des îles de la Madeleine.
Le menu du midi. Votre émission d'information.
Pourquoi on ne prendrait pas cette année-là de secondaire 1 de révision, puis qu'on ne ferait pas de la matière vue normalement en secondaire 2, puis juste décaler, puis comme ça, on pourrait garder nos 50 secondaires, puis passer directement à l'université.
On pensait que ça serait le fun, Facebook, puis on se lance là-dedans sans trop réfléchir, puis là, après, on s'aperçoit que sur Facebook, il y a de l'intimidation, il y a de la fraude, il y a des disputes, il y a des complots. C'était le fun, Facebook, au début, hein? Ben là, ça l'a encore, mais ça l'est un peu moins.
Le meilleur russe du repêchage, Ivan Demidov, son contrat dans la KHL vient à échéance en 24-25.
Okay,
donc, l'été prochain. Donc, c'est comme si on repêchait un joueur de la Ligue canadienne de hockey. Mettons que le Canadien repêchait Caden Lidstrom et qu'on le retournait dans les juniors, ben, il ne serait pas disponible avant la saison 25-26.
Okay.
C'est la même chose pour Ivan Demidov. Puis, en plus, il a exprimé son désir de venir jouer en Amérique du Nord. Ça ne restera pas foiré à la maison. À la TV.
C'est à ça que tu
parlais,
là.
Du lundi au vendredi dès midi. Parce que nous tenons à nos clients. Alignement PMM t'invite à prendre rendez-vous pour préparer ton véhicule pour l'été. Que ce soit pour un changement d'huile, un alignement ou tout simplement pour une réparation. Alignement PMM est là pour toi. Des vieux pneus d'été fondus? Pas de problème, on en vend. On vend aussi des pièces de qualité. Parlant de qualité, celle de notre service n'est plus à faire. Prends rendez-vous dès maintenant. Alignement PMM. 418-722-6727. 418-722-6727.
Le samedi 25 mai dès 19h30, soirée de boxe Construction Jolimont à l'Amphithéâtre Desjardins de Mont-Joli. 14 combats de haut niveau, sanctionnés par la Fédération québécoise de boxe olympique, mettant en vedette des boxeurs du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Billets en vente à partir de $25 sur ticketaccess.net ou sur le site de l'Académie de boxe BSL. Un événement présenté par l'Académie de boxe BSL de Rimouski en collaboration avec la Corporation des événements spéciaux de la ville de Mont-Joli et le Quality Inn de Mont-Joli.
Ouais, ben c'est pas toujours évident la vie, hein? Tellement de problèmes de couple.
Ben tu vois, moi j'ai pas de problème de couple avec mon Ram 1500 classique. Il y a une capacité de remorquage jusqu'à 10 600 livres, ça me donne jusqu'à 410 livres de couple à peu près. Ça règle ça, une coupe de problèmes. Comme on dit dans le milieu de la roue.
Ah ben ouais.
Pendant l'événement Puissance Ram, obtenez 20% de rabais sur le PDSF, soit jusqu'à 14 200 en rabais sur les Ram 1500 classiques 2023. Détails sur camionram.ca.
Ici Louis-Vincent Lebel. La référence pour votre toiture en bardeaux et vos rénovations, c'est LVL Construction. Nous sommes les seuls à avoir la plus haute certification du fournisseur GAF. Un bardeau garanti 50 ans, une installation garantie jusqu'à 25 ans. Une protection contre les vents de façon illimitée. Offrez-vous la tranquillité d'esprit. Projet de toiture, de rénovation, nous pouvons vous accompagner. Contactez-nous pour une estimation rapide et gratuite au 750-7124 ou visitez le lvlconstruction.ca.
CFIX FM 93. Le sport, les nouvelles d'ici, les enjeux de l'heure, les sujets qui vous mettent et qui vous mettent. Vous allez en entendre parler à CFIX FM 93.
Québec maintenant.
Pierre Robichaud, c'est une sélection de DJ Max P. Paquet. Et voilà, on va parler des îles de la Madeleine, le plus bel endroit au Québec, selon beaucoup de gens, dont moi. Je suis allé il y a une vingtaine d'années, deux fois. Je rêve d'y retourner. Pas sûr qu'ils vont m'accueillir, parce que j'ai chroniqué là-dessus dans la presse. Et on m'a lancé beaucoup de tomates. Et ce que je dis, c'est que je ne suis pas d'accord avec le fait que la municipalité des îles de la Madeleine va tarifer l'accès au territoire municipal dans son entièreté de mai à octobre, haute saison touristique. J'ai trouvé un allié sur Facebook. Il s'agit du politologue, chroniqueur Christian Dufour. On peut l'entendre ici avec Nathalie Normandeau. Salut Christian.
Salut Patrick.
Sur Facebook, j'ai vu que tu étais d'accord avec moi. Toi et moi, on est souvent pas d'accord là-dessus. T'es de mon côté, merci beaucoup. On n'est pas tant que ça dans mon camp. Pourquoi t'es contre la tarification de l'accès aux îles?
Ben, j'étais content que t'écrives ta chronique. J'ai trouvé ça courageux et très perspicace. Parce que c'est sûr que sur le coup, tu te fais écœurer, tu te fais critiquer.
Écoute, je te montrerai pas ma messagerie, mais disons que c'est le ratio doit être de un commentaire en faveur pour 10 commentaires.
Parce que beaucoup de gens vont dire il n'y a rien là.
C'est ce que les gens disent.
C'est 30 piastres.
Et Christian, les gens vont dire aussi, c'est pas cher, puis c'est beau les îles, on veut aider les îles.
C'est ça, puis il y a le touriste de masse qui crée des ravages. Oui. C'est pas ça l'enjeu. Puis le maire a pas l'air de l'avoir compris pantoute, puis ce serait le temps qu'il allume, là. Parce que ça a déclenché une réaction, pas juste aux îles. Dans beaucoup au Québec, beaucoup de gens ont réagi, parce que c'est un passeport numérique. C'est ça l'enjeu.
Ah, la question du code QR, là.
C'est ça
l'enjeu. Là.
C'est ça qui passe pas, puis ça réveille des souvenirs de la pandémie.
Mais la pandémie, ça se justifiait par l'urgence sanitaire. On peut pas être d'accord,
précédent
là, mais...
sanitaire, moi, tu sais que moi, j'ai critiqué les mesures sanitaires. Je trouve que c'est allé trop loin. Bon, on l'appliquait dans le domaine sanitaire. Mais là, c'est un autre précédent dans un domaine qui est pas sanitaire. C'est pour ça que je suis content, moi, que les gens réagissent à ça. Moi, je crois que la révolution numérique qu'on vit tous, à laquelle il faut tous s'adapter, elle a un potentiel liberticide évident. Donc, c'est pour ça qu'il faut alerter dès le départ au précédent. Là, c'est le maire des îles de la Madeleine, pour des motifs, tout le monde est d'accord avec ça, qui nous arrive avec un passeport numérique. C'est ça qui passe pas. C'est pour ça que dans le Québec, il y a beaucoup de gens qui disent, ça rappelle tous les souvenirs du passeport sanitaire. Il y a un tas d'autres moyens, en fait, pour régler le problème. C'est clair qu'il y a des dommages qui sont causés par le tourisme de masse. Le tourisme de masse, c'est pas juste aux îles de la Madeleine, c'est un phénomène mondial. Il va en avoir de plus en plus de tourisme de dommages. Tu peux taxer les maisons d'hôtes.